France Culture.
Bienvenue à tous dans les Midi de Culture. À 13h, je recevrai Loïc Prigent pour son livre « 1000 milliards de rubans, la vraie histoire de la mode » paru chez Grasset. Mais tout de suite, c'est l'heure du Point Culture avec Sophie-Catherine Gallet. Bonjour.
Bonjour
Quoi
Marie.
Quoi de neuf dans le monde culturel en ce vendredi?
Eh bien, le roman de Haruki Murakami, La cité aux murs incertains, a ouvert hier le bal des parutions littéraires de janvier. L'occasion de s'intéresser aux enjeux de la traduction franco-japonaise, notre dossier du jour. Hélène Morita, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes traductrice de japonais, vous traduisez notamment tous les romans de Haruki Murakami depuis 2007 et vous avez aussi enseigné à l'Institut franco-japonais de Tokyo et à l'Université de Nagoya. Alors le roman de Murakami est attendu en France depuis un an et demi, mais est-ce que c'est finalement la durée régulière pour une traduction, notamment quand il s'agit de japonais ?
Écoutez, c'est un très gros roman, bien sûr, comme vous savez. Disons que une fois que l'éditeur a acquis les droits, il m'est resté environ une année de travail. Ce travail a été effectué avec la collaboration active et très utile d'une amie japonaise, Tomoko Ohno, que je salue d'ailleurs.
Et justement, alors donc là, vous dites que vous avez travaillé en collaboration avec une autre personne, mais comment est-ce que vous travaillez le texte? Est-ce que vous traduisez page après page? Est-ce qu'il y a une technique particulière? Est-ce que ça change quand c'est un autre auteur japonais et quand c'est Murakami?
Oh, écoutez, c'est simple, hein. Bien sûr, après avoir lu, rapidement le livre en son entier, eh bien, je commence par le début, page après page. Je ne pense pas que ce soit tellement différent lorsqu'il s'agit de Murakami ou d'un autre auteur. Le travail de traduction est le même. Enfin, le style et la langue sont différents, ça c'est évident, mais le travail lui-même de passage est le même. Et là, comme j'ai travaillé en effet en collaboration, c'est moi qui traduisais évidemment l'essentiel, et pour quelques petits passages qui étaient pour moi un petit peu douteux, un peu problématiques, je demandais à mon amie, qui elle-même relisait, et nous dialoguions. Nous avons dialogué ensemble sur toutes sortes de points.
Alors j'ai lu que vous aviez dit notamment, peut-être que ce n'était pas par rapport à cet ouvrage en particulier, mais avoir eu un problème à un moment avec un passage dans un roman que vous deviez traduire et que vous aviez demandé justement donc leur avis à des connaissances japonaises, je pense, parce que vous parlez de votre collaboration avec cette amie. Et vous disiez que chacun avait une interprétation différente de ce qui avait été écrit. Alors est-ce que finalement on peut imaginer que le japonais est une langue qui laisse plus de place à l'imaginaire ?
Alors, à l'imaginaire, on peut le dire comme ça, ou bien à l'incertitude. Par exemple, je peux vous donner un exemple très simple. C'est le titre de cet ouvrage en japonais sur la page, sur la couverture, bien sûr. Il y a écrit son nom, Murakami Haruki, et puis le titre en japonais. Et bon, la ville, la cité, et, si je lis très littéralement, Sono Futashikana Kabe. C'est SES, mur incertain. Sauf que, justement, mur, est-ce que c'est son mur, un mur, des murs, ses murs ? Ce n'est pas précisé. Et par exemple, j'ai discuté par Internet avec la traductrice danoise qui, au terme de longues réflexions, a choisi le singulier, son mur. Bon, moi j'ai choisi ses murs. Les deux sont possibles, les deux sont valables.
Et comment vous faites ce choix ? Est-ce que c'est du coup par rapport à votre propre interprétation ? Vous acceptez de vous offrir en fait finalement cette liberté de peut-être aussi un peu trahir l'intention initiale ? Ou comment on se positionne à ce moment-là ?
Bon, dans ce cas précis, j'ai choisi le pluriel parce que Murakami lui-même a écrit un sous-titre en anglais. « The city and its uncertain walls ». Et il a mis un pluriel. Donc, bon, je me suis dit, voilà. Néanmoins, il y a d'autres cas où on se fie, en effet, à ce que l'on ressent par rapport au contexte. Et je ne crois pas, en fait, qu'il y ait la fameuse trahison. Nous ne sommes pas des traîtres. Il y a toujours eu des traducteurs ou des interprètes. au fil du temps, des marchands, des voyageurs, des espions et des scribes. Moi, je me vois bien comme un scribe. Et j'ajouterais même ici, par rapport à ce livre-là, ce livre-ci plutôt, je me vois bien comme une ombre. Alors, pourquoi une ombre ? L'ombre de l'auteur, le double de l'auteur, l'alter ego de l'auteur. Pourquoi ombre ? Parce que dans ce roman, l'ombre de soi-même, joue un rôle absolument prépondérant. L'ombre est un personnage à part entière qui va parler, qui va dialoguer avec le narrateur sans nom, et il y aura toutes sortes d'aventures avec cette ombre. Donc, disons que je joue un petit peu là-dessus.
Ça donne très envie de lire le roman, et je pense que ce sera le cas aussi pour nos auditeurs. Mais peut-être justement, pour continuer, vous qui êtes donc au plus proche de l'écriture de Murakami depuis 2007, alors comment vous décririez ce nouveau roman par rapport aussi à toute l'œuvre que vous avez traduite et aussi l'œuvre avant que vous ayez commencé à traduire ? Ou comment vous situeriez ce roman ?
Écoutez, en effet, il m'a semblé que par rapport à tous ces romans précédents, et c'est pas une question de, comment dire, de hiérarchie ou de décerner des notes ou de ce genre de choses, pas du tout. Il m'a semblé que dans son écriture et dans le dessin romanesque, Murakami effectuait un véritable accomplissement dans ce roman. C'est une sorte de sommet, je trouve. C'est ainsi que je l'ai senti, dans une écriture très méditative, contemplative, dépouillée de certaines afféteries que chaque auteur peut utiliser parfois. Et c'est un roman qui prend son temps, et je crois qu'il faut prendre son temps aussi pour le lire. Voilà.
Vous parliez tout à l'heure du sous-titre en anglais qui a été écrit par Murakami lui-même, et il faut peut-être ajouter que Murakami était lui-même traducteur et continue d'ailleurs, si je ne me trompe pas, à traduire des textes à certains moments. Est-ce que pour vous ce serait ça aussi justement, le fait qu'il puisse passer d'une langue à l'autre, qu'il ait cette habileté de traducteur dans sa propre langue, qui fait la spécificité aussi de son style ? Comment est-ce que vous le voyez ? Est-ce que vous le reconnaissez quand vous lisez le texte brut, le texte japonais ?
Je pense qu'en effet, il a acquis une certaine clarté, un côté plus direct que la majorité des écrivains. Enfin, il faut dire, les écrivains que j'ai traduits précédemment étaient plus anciens, plus classiques. Donc, il est aussi tout à fait normal, compréhensible que Murakami utilise la langue d'aujourd'hui. C'est un contemporain complet. Je vais dire à l'affût, aux aguets de ce qui se passe dans son pays et dans le monde. Donc, sa langue est une langue totalement contemporaine. Et en effet, j'avais trouvé une certaine étrangeté la toute première fois donc, que j'avais eu à traduire son texte, ressentant ses phrases comme légèrement étrange. Après tout, en effet, il s'était prêté à l'épreuve de l'étranger, de l'étrange. Il avait, pour trouver son style, c'est lui-même qui le raconte un peu plus tard, il a écrit quelques pages en anglais. Et ce passage à une autre langue, autre que sa langue maternelle, celle de son pays, celle dont il est profondément imprégné, cela aussi, c'est lui qui le dit, lui a permis de trouver sa voix, son style.
Eh bien, merci beaucoup, Hélène Morita.
Et on vient d'apprendre, Sophie Catherine, dans Libération, que deux actrices accusent Philippe Cobert de violence sexuelle.
Oui, Philippe Cobert, comédien connu pour sa pièce La danse du diable, est accusé par Agathe Pujol et Pauline Darcel, qui ont toutes deux déposé plainte. Mis en examen, Philippe Cobert reste présumé innocent et réfute, par la voix de ses avocats, avoir imposé le moindre acte sexuel aux deux plaignantes.
Alors merci beaucoup, Sophie Catherine.